partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Académie. J'ai plaisir à dire que l'invité de cette émission est un acteur d'Europe. Il s'appelle Christophe Leclerc, c'est un Français qui a choisi de vivre à Bruxelles, là où, on le sait, se tiennent les débats concernant les décisions européennes, dans un monde que nous ressentons parfois, souvent, peut-être, comme une nébuleuse lointaine. Et pour remédier à cela, Christophe Leclerc a créé Euractiv.com. C'est un média sur Internet incontournable, me dit-on, de l'actualité européenne. Bonjour Christophe Leclerc.
Bonjour Hélène Renard.
Et merci d'être venu jusqu'au studio de Canal Académie, d'avoir fait le trajet. On vous offre au moins la vue sur la Seine, c'est déjà cela. Je viens de définir rapidement Euractiv, donc comme un média sur Internet relative aux questions européennes. Mais vous, sur votre site, vous le définissez comme un journal en ligne, gratuit, indépendant et dédié aux politiques de l'Union européenne en France. C'est donc un média pan-européen. Est-ce que vous pouvez nous le présenter un peu plus en détail ?
Tout à fait. C'est un média spécialisé, donc qui intéresse en premier lieu les gens qui ont un intérêt professionnel pour les politiques européennes. Mais, comme vous venez de le dire, il est tout à fait ouvert et gratuit pour l'accès des autres, des citoyens tout simplement, qui s'intéressent aux questions européennes. Et en fait, ça n'est pas un seul média, mais plutôt un réseau de 12 médias. Vous avez cité Euractiv France, qui effectivement adapte l'actualité européenne aux préoccupations des lecteurs français. Et il y en a comme ça 11 autres. Et parmi ces 11, il y en a un qui joue un rôle particulier à Bruxelles, qui est Euractiv.com, qui existe en anglais, en français et en allemand, et qui a un angle un petit peu plus législatif, un petit peu plus bureaucratique, on pourrait dire, et qui, là, est utilisé plutôt par les professionnels des politiques européennes à temps plein. Les autres font ce qu'on appelle de la localisation, c'est-à-dire qu'ils adaptent les sujets européens aux préoccupations de différents pays.
Alors, on va les citer, ces pays. Tout de même, s'il y en a 11 ou 12, on peut peut-être les citer et nous dire où il y a donc des bureaux d'Euractiv qui reprennent l'actualité qui se fait à Bruxelles et qui l'adaptent et qui la font comprendre à leurs lecteurs sur place.
Alors, pour clarifier les choses, c'est peut-être plus simple pour les auditeurs de réfléchir en termes de taille et de pays. Donc, on est présent dans 5 des 6 grands pays de l'Union européenne, c'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Allemagne et la Pologne. On oublie souvent la Pologne dans les 6 grands. Dans le 6e, l'Italie, on est présent sur la base de certains projets, mais on n'est pas encore complètement développé. On aura dans quelques mois une version italienne complète. Et en plus de ces 6 pays, on a décidé de privilégier les pays de l'élargissement, c'est-à-dire essentiellement les pays d'Europe centrale. Les 4 pays de Visegrad, il y a la Pologne, plus la Tchéquie, la Slovaquie et la Hongrie. Nous avons les 2 derniers pays qui ont rejoint l'Union européenne, la Bulgarie et la Roumanie. Et enfin, le dernier pays apporte souvent beaucoup de questions, la Turquie. On est présent longuement en amont de l'élargissement.
En amont, oui, j'en ai fait. Mais bon, ce n'est pas encore décidé. Donc, si je comprends bien, ce sont 11 ou 12 rédactions qui sont indépendantes et qui vont donc constituer l'actualité et les informations.
Tout à fait. Jusqu'il y a une dizaine d'années, l'information sur les politiques européennes reposait essentiellement sur 2 canaux. D'abord, les médias classiques, les médias nationaux. On pourra y revenir, ça fait partie de notre audience, on aide à informer les journalistes. Et d'autre part, les canaux officiels et notamment les sites liés aux institutions européennes. Et la stratégie des institutions européennes, c'était de dire la même chose à tout le monde en traduisant dans le plus de langues possible, mais sans adapter. Et nous, on s'est fort démarqué de ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a des équipes indépendantes, à la fois dans leur financement et également dans leurs choix éditoriaux. On utilise très peu de traducteurs. On utilise quelques traducteurs à Bruxelles pour faire les versions françaises et francophones, plus exactement, et germanophones. Mais pour le reste, au plan national, ce sont des journalistes qui regardent ce qu'on a fait à Bruxelles, qui regardent d'autres sources d'informations et qui concoctent eux-mêmes ce qui est nécessaire pour leur pays.
et qui finalement replace les choses dans le contexte aussi, mettons, dans le contexte français, pour que le public français ait un lien et comprenne bien ce qui se passe.
Voilà, je vais vous donner deux exemples pratiques, un qui relève du contenu, un autre qui relève du vocabulaire. Celui qui relève du contenu, c'est le Grenelle de l'environnement. En France, tout le monde sait ce que ça veut dire. À Bruxelles, soit en Belgique, soit dans les milieux européens, et au-delà, le Grenelle de l'environnement ne veut rien dire. On parle de politique de l'environnement et non pas de Grenelle. Un autre exemple, on a eu un petit problème de traduction récemment parce que dans un document anglophone, on parlait de la constitution du nouveau cabinet en France. Et évidemment, un cabinet en France, ça n'est pas la même chose qu'un gouvernement. Donc là aussi, il y a un besoin d'adaptation linguistique.
Absolument. Et donc, vous proposez aussi des dossiers importants ou seulement de l'information au jour le jour?
Voilà. Effectivement, il y a beaucoup de médias qui fournissent de l'actualité. Le langage que j'hésite à utiliser dans ces locaux, c'est news site, un site d'actualité.
Ici, il faut être très prudent.
je l'imaginais. Nous essayons d'aller plus en profondeur. Donc, nous nous définissons aussi comme un portail politique. Et ce qui nous caractérise, c'est le fait d'avoir des journalistes spécialisés sur des rubriques, que ce soit l'industrie, la culture, les langues, l'agriculture. Et donc, nous essayons d'aller beaucoup plus en profondeur que des médias généralistes ne peuvent le faire. Et pour revenir à l'autre canal de diffusion d'informations sur les politiques européennes, les médias eux-mêmes, ce qu'on observe, c'est malheureusement une réduction du nombre de correspondants de presse à Bruxelles et le fait que, en dehors des journalistes spécialisés des rédactions centrales, il y a peu de gens qui comprennent vraiment la façon dont la politique européenne fonctionne. C'est dommage parce que la moitié des législations qui nous concernent sont décidées à Bruxelles. La France est autour de la table, mais elle n'est pas toute seule. Or, il n'y a pas du tout la moitié des journalistes français qui comprennent vraiment la façon dont ça se passe à Bruxelles. Et notre objectif, ce n'est pas d'informer mieux les gens qui le connaissent déjà, c'est d'informer mieux les gens. Par exemple, mon lecteur cible en France, ce serait volontiers le responsable de la rubrique agricole de Ouest-France, à Rennes, qui couvre les politiques européennes de l'agriculture d'une bonne façon, mais qui n'a pas en fait de correspondant à Bruxelles et qui donc a besoin d'une information fraîche en profondeur.
Revenons un petit peu à l'histoire d'Euractiv, donc cette plateforme, ce réseau d'informations que vous avez créé. Il y a combien de temps et dans quelles conditions ça s'est fait?
On a fêté l'an dernier notre 10e anniversaire. Ça veut dire qu'on est l'un des médias internet les plus anciens. On s'est lancé au moment de la vague des dot-com, comme on disait à l'époque, et nous en sommes l'un des survivants en quelque sorte. Je dois dire un mot de ma personne puisque je suis le fondateur. J'étais à l'époque fonctionnaire à la Commission européenne, à la Direction générale de la concurrence, et j'ai remarqué qu'il y avait un grand besoin de transparence. Les trois principes fondateurs d'Euractiv, c'est transparence, efficacité et multilinguisme. Transparence, c'est surtout le fait de donner accès facilement aux prises de position des différents acteurs. On ne se rend pas bien compte, à Paris, de l'importance du secteur des affaires publiques. Bruxelles, c'est un peu comme Washington, sauf que, heureusement, l'argent y joue un rôle beaucoup moins important. Mais c'est un petit peu la même chose dans le sens où il y a un grand nombre d'ONG, de fédérations industrielles, d'entreprises, d'États membres, d'États tiers, qui tous essayent de tirer la couverture dans leur sens, la couverture du débat politique. Et jusqu'à l'arrivée d'Internet, c'était très difficile de s'informer, en tout cas gratuitement. Donc les gens qui avaient les moyens prenaient des consultants et les autres ne savaient pas ce qui se passait à Bruxelles. Depuis l'arrivée d'Internet et aussi l'arrivée de Euractiv et quelques autres confrères, il est beaucoup plus facile de retrouver les prises de position des uns et des autres. Ça, c'est la transparence. Et l'efficacité, c'est beaucoup plus court à expliquer, c'est tout simplement de faire gagner du temps aux gens. Notre but n'est pas que les gens écoutent une interview pendant une demi-heure, ça c'est la vocation d'autres médias comme le vôtre, mais notre but c'est justement que les gens trouvent tout de suite l'information technique qu'ils cherchent en quelques minutes.
Donc ce soit accessible, concis, et donc c'est l'efficacité. Et donc le multilinguisme, c'est aussi une valeur que vous défendez.
Tout à fait. Quand j'ai lancé Euractiv, j'ai tout de suite pensé qu'il était indispensable qu'on existe en anglais, sinon on ne pourrait pas survivre. Et j'ai aussi pensé qu'on existerait au moins en français et en allemand, qui sont les trois langues de travail de la Commission européenne. Il y a en tout 23 langues officielles, mais les autres langues ne sont pas forcément des langues de travail. Et nous avons pensé aussi qu'on voudrait exister dans d'autres langues, mais que ce ne serait pas efficace de le faire de façon centralisée. Ce serait à la fois trop coûteux, trop lent et moins proche des préoccupations des gens. Et donc, on a retenu un multilinguisme décentralisé.
Oui, c'est votre originalité, justement. Donc, en fond, chaque rédaction dans chacun des pays est un peu autonome, mais en même temps, elle se réfère. Comment ça se passe entre les rédactions de chaque pays et puis la société mère, j'allais dire?
Oui, je peux l'expliquer de façon très pratique. Le soir, vers 5 heures, Bruxelles envoie un courriel à toutes les autres rédactions en indiquant quelles sont les priorités du lendemain. Bien entendu, s'ajouteront d'autres choses, des nouvelles qu'on n'a pas pu prévoir. Nos équipes ont tendance à travailler tôt. À 9 heures, vous avez les articles à Bruxelles qui sont au moins en partie trilingues, français, anglais, allemand. Et vers 11 heures au plus tard, dans la plupart des sites de notre réseau, vous avez un certain nombre d'articles qui ont été repris, adaptés et traduits dans les autres langues. Et pendant le cours de la journée, l'équipe de rédaction à Bruxelles va regarder ce qui s'est fait dans les autres langues et enrichir son propre article de départ, au moins en mettant des liens vers les versions localisées de ces articles, également en les enrichissant avec les prises de position nationales qu'on a pu repérer. Donc c'est beaucoup plus qu'un effort de traduction, c'est aussi un effort d'enrichissement et de rapprochement des débats politiques nationaux.
Est-ce que vous avez des organismes qui vous soutiennent dans cette initiative de multilinguisme, justement ?
Tout à fait. J'en citerai deux. Au début d'Euractiv, c'est la Commission européenne qui a financé l'extension du réseau Euractiv à l'Est. Il y avait une priorité pour les pays de l'élargissement. On y était d'ailleurs avant l'élargissement. Et bien entendu, il y avait une forte dimension linguistique. Donc la direction générale de la Société de l'information a cofinancé les développements multilingues d'Euractiv. Et depuis, nous travaillons avec l'Organisation internationale de la francophonie pour faire la promotion du français.
Justement, le français. J'allais vous demander quelle est sa place exactement dans ce réseau.
Bon. Alors, il a une place importante. Et je dirais même qu'on a deux versions françaises qui répondent à des besoins différents. D'une part, nous avons le français, langue de travail des institutions européennes, qui est une langue de traduction à Bruxelles. Et là, on s'attache à ce que ça soit exactement la même chose en allemand, en anglais et en français. Et d'autre part, vous avez une version française faite à Paris qui est adaptée aux besoins de la France. Alors la promotion du français, bien entendu, ne vise pas uniquement les gens, les francophones de France, de Belgique et du Luxembourg. La promotion du français, c'est surtout dans les autres pays. Il se trouve que dans nos équipes éditoriales, aussi bien à Bruxelles qu'en Europe centrale et vers le sud, il y a beaucoup de journalistes qui possèdent bien le français. Je pense par exemple à l'un de nos éditeurs principaux qui est bulgare et qui parle français à peu près aussi bien que moi, peut-être mieux parfois. Également en Roumanie, il y a une proportion de nos journalistes et de nos lecteurs aussi qui possèdent bien le français. Plus généralement, ce dont on est convenu avec l'Organisation internationale de la francophonie, c'est que c'est important de faire la promotion du français en tant que langue de travail de Bruxelles. Beaucoup de gens imaginent que Bruxelles fonctionne en anglais et que l'interface linguistique existe uniquement au plan national, alors que le français est toujours une langue de travail importante à Bruxelles.
Je vois que vous utilisez le mot promotion plutôt que défense. Pour vous, c'est différent ?
Oui, c'est différent. Je pense que défense fait référence à des réflexes un petit peu défensifs. Ma femme est anglaise, je n'ai rien contre la langue anglaise et je m'attache à ce que mes enfants soient vraiment bilingues. Nous parlons français à la maison d'ailleurs. Et plus généralement, je pense que le français est une chance pour les gens qui peuvent posséder cette langue et puis qui peuvent donc accéder à notre espace culturel. C'est donc bien la promotion du français à laquelle on s'attache.
Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du nombre justement d'utilisateurs du site Euractiv, Euractiv dans son réseau entier et Euractiv France ?
Nous avons à peu près 600 000 visiteurs uniques, c'est-à-dire des gens qui sont comptés individuellement, même s'ils viennent souvent sur notre site chaque mois. Ça, c'est le chiffre pour l'ensemble du réseau, en ne comptant pas deux fois les gens qui utilisent deux sites différents, bien entendu. Et Euractiv France, c'est à peu près 50 000 lecteurs. Euractiv France est beaucoup plus récent, ça date de seulement 3 ans. Et une bonne proportion des lecteurs d'Euractiv France regardent également les sites qu'on a en français, anglais et allemand à Bruxelles.
Et quel est leur profil ? Quels sont les gens intéressés particulièrement ?
On a 3 cercles. On a le cercle qu'on appelle les acteurs européens à temps plein, qui est surtout bruxellois, mais également France, par exemple, le centre de réflexion Notre Europe, présidé par Jacques Delors. C'est tous des gens qui sont des acteurs européens à temps plein, ou les gens du ministère des Affaires étrangères qui s'occupent des politiques européennes sont parmi nos lecteurs fréquents. Le deuxième cercle, on les appelle les acteurs européens à temps partiel. Ce sont les professionnels de la politique, c'est-à-dire les gens qui travaillent au gouvernement, dans les fédérations industrielles, dans les ONG, tous les gens qui influent sur la politique et notamment les médias. On a à peu près 20 000 utilisateurs des médias sur l'ensemble de notre réseau. Et le troisième cercle, ce sont les citoyens. Et là, on vous rejoint. On a 19% de nos lecteurs qui sont dans des universités, soit comme étudiants, soit comme enseignants.
Et qui veulent s'informer sur les questions européennes. Eh bien, je ne sais pas, est-ce que vous éditez aussi une lettre d'information ou est-ce qu'on peut seulement consulter le site ?
Nous avons des lettres d'information par courriel. Chacun des sites en a. Et au niveau bruxellois, elles sont un peu plus détaillées, donc elles sont même sectorielles. Nous avons une vingtaine de lettres hebdomadaires par secteur auxquelles on peut s'abonner dans l'une des trois langues, et donc notamment en français.
Vous avez peut-être encore quelque chose à ajouter. Je vous laisse la parole.
Oui, concernant la langue française dans les milieux européens, parce que c'est vraiment un enjeu important. Et un enjeu qui tient à cœur de l'Association pour la défense de la langue française, à laquelle j'appartiens. Parfois, on entend des remarques un peu défaitistes. C'est vrai que l'anglais est maintenant prédominant. Mais ce que je remarque, c'est que les gens qui veulent vraiment être efficaces à Bruxelles connaissent tous le français, soit parce qu'ils sont eux-mêmes francophones, soit parce qu'ils ont acquis le français au cours des années. Bruxelles n'est pas une ville d'expatriés où on passe rapidement, comme à New York, par exemple. C'est une ville où les gens restent longtemps. C'est une ville qui est avant tout francophone, même si le flamand est également langue officielle. Et ce que je remarque, c'est que le français est devenu la langue de l'informel. C'est peut-être un retour de l'histoire intéressant. Dans le passé, le français était la langue des diplomates, langue de haute culture, et cette institution-ci en est bien entendu le symbole. Et c'était d'autres langues dans la rue qui étaient pratiquées, y compris dans notre pays jusqu'à un temps relativement récent. À Bruxelles, c'est un peu l'inverse. L'anglais, c'est la langue officielle, parmi d'autres bien entendu, mais c'est la langue officielle principale, la langue de l'écrit. Et par contre, la langue de l'oral, la langue des couloirs, la langue de l'informel, la langue du tutoiement, c'est le français.
La langue de l'amitié peut-être, là on peut dire.
Tout à fait.
De la rencontre, donc qui porte d'autres valeurs.
Donc je crois que Bruxelles deviendra de plus en plus bilingue pour ce qui concerne les affaires européennes. Et d'ailleurs, les gens d'Europe de l'Est qui ont rejoint ces cercles depuis quelques années se sont tous mis à apprendre le français. Et moi, j'ai un message d'optimisme sur notre langue.
Quels sont les projets d'avenir pour Euractive ?
Nos projets d'avenir, c'est de remplir la carte, je dirais, mais de façon différenciée. C'est-à-dire que pour l'instant, nous avons ce que nous appelons des affiliés franchisés dans les grands pays et en Europe centrale, avec des équipes marketing et éditoriales complètes. Dans des pays plus petits, comme les pays baltes ou Malte ou Chypre, etc., on va avoir des solutions un peu plus légères, avec des équipes qui vont faire uniquement de la traduction ou simplement de la reprise de contenu quand les langues françaises ou anglaises sont suffisantes pour eux. Notre carte ne s'arrête pas à l'Union européenne, au contraire, on essaye d'être toujours bien en avance sur l'Union européenne, et d'ailleurs l'intégration européenne va bien au-delà de l'élargissement. Donc notre objectif pour les 10 prochaines années, c'est d'être présent dans tous les pays du Conseil de l'Europe, ce qui inclut l'ancienne Union soviétique.
Alors bon courage et bonne chance pour Euractive. Merci Christophe Leclerc d'être venu nous présenter cette plateforme. Je conseille évidemment à nos auditeurs de s'y rendre et d'aller s'informer, donc en tapant euractive.com ou euractive.fr, Euractive sans E à la fin.
C'est ça, EURACTIV. Et félicitations à Canal Academy.
Merci d'être venu jusqu'à nous. À bientôt.